France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, simplifier l'orthographe, mission impossible. Qu'elle est compliquée à écrire, cette langue française, avec ses consonnes doubles, ses participes passés à accorder comme ci ou comme ça, ses innombrables exceptions qui sont autant de chausse-trappes, avec un seul P ou deux, bah oui, parfois on a le choix, parfois seulement. Il y a ceux qui l'aiment, cette orthographe, qui la vénère, et ceux qu'elle fait souffrir, qu'elle écrase de sa supériorité. Depuis qu'elle a été peu ou prou fixée, elle a subi nombre de simplifications. Mais depuis 1932, elle n'a pas bougé. En 1990, le Premier ministre Michel Rocard met en œuvre une réforme, en vérité un simple toilettage, destinée surtout à faciliter l'écriture, à supprimer des accents superfétatoires et à corriger d'incompréhensibles anomalies. Sacrilège, s'exclame alors écrivain et autres gardiens autoproclamés de l'accent circonflexe, la guerre de l'orthographe est déclarée, c'est une affaire très sensible. Notre invité aujourd'hui, Bernard Cerchiglini, linguiste, auteur du récent ouvrage « À qui la faute ? L'impossible mais nécessaire réforme de l'orthographe » publié chez Folio. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Tout le monde n'a pas la chance de vivre en Turquie, où le mot saucisse s'écrit S-O-S-I-S, ni d'avoir vu le jour en Espagne ou en Finlande, où il suffit d'entendre un mot pour savoir l'écrire. Phonétique rime avec pratique, le fameux comme ça se prononce. En France, à contrario, l'orthographe est un terrain semé d'embûches. Démonstration avec cet extrait de la conférence « La faute de l'orthographe » tenue par Arnaud Hutt et Jérôme Piron, deux enseignants belges pleins d'humour.
Prenons par exemple le son « s »
comme dans « régisseur ».
Comment peut-on écrire ce son en français ? On peut l'écrire « s », « deux s », « c », « c'est dit », SC comme dans science, T, les finales en sion. On peut l'écrire X dans 10 ou 6. On peut l'écrire Z dans quartz
ou aztec.
On peut l'écrire TH dans forsythia. On peut l'écrire STH dans isthme ou asthme. On peut l'écrire 2C dans succion. Et on peut même l'écrire SCCD. Dans Il acquiesça.
Donc, 12 façons différentes d'écrire un même son. L'exemple est extrême, sans doute, mais il dévoile bien l'impossibilité de transcrire facilement l'oral. Donc, il faut apprendre l'orthographe, y passer des heures et des heures à l'école. Alors, qui n'aurait pas envie de simplifier tout cela, hein ? Franchement. La question n'est pas nouvelle. Depuis le XVIe siècle, la façon d'orthographier le français fait l'objet de débats quasi ininterrompus. En vérité, l'orthographe n'a jamais été fixée une bonne fois pour toutes. Tiens, savez-vous comment Molière écrivait Misanthrope, titre de l'une de ses pièces ? Il l'écrivait sans H entre le T et le R, ce qui lui vaudrait aujourd'hui une faute. Idem avec le mot orthographe, carrément, qu'il privait pareillement du H entre le T et le O. Donc, il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe. Celle-ci, en effet, est un outil au service de la langue qui a largement fluctué au fil des siècles. Quelques exemples. Vers le XIIe, on écrivait « doigt », le doigt de la main, « d-o-i » ou « d-o-e », prononcé « doué ». L'orthographe est alors peu ou prou phonétique, mais ne le reste pas. Au XVe et surtout au XVIe siècle, nombre de consonnes non prononcées ont été rajoutées pour latiniser la langue, pour la rendre plus riche. Poumon, par exemple, s'est vu adjoindre un L et s'orthographie poulmon, comme dans pulmonaire. Savant s'orne d'un CCDI derrière le S initial. Agrandir prend 2G, abattre 2B, et ainsi de suite. Ah, les doubles consonnes. Le pire de tout, ça ne répond à aucune logique. Alors, faut-il toutes les apprendre par cœur ? Peut-être. Bon courage. comme la chose imprimée commence à se répandre, il s'agit de décider s'il faut fixer l'orthographe par l'oreille, écrire comme ça se prononce, ou par l'œil. Maintenir ces lettres rajoutées par la référence au latin ou au grec. Écrire ainsi physique ou éléphant avec PH plutôt qu'avec un F, à l'image de nos voisins italiens, espagnols ou même roumains qui ne s'occupent du PH que pour leur piscine. Ainsi va la bagarre des progressistes favorables à une écriture proche de la phonétique et des conservateurs. Du côté des progressistes, arrêtons-nous un moment sur Louis Maigret. Rien à voir avec le commissaire. Auteur en 1550 de la première grammaire française. Correcteur dans une imprimerie, il publie un pamphlet dirigé contre l'orthographe traditionnelle et propose une nouvelle graphie. François Clauzel la détaille dans le livre Zéro faute.
D'emblée, il pose que l'on doit écrire comme l'on parle. C'est le choix de la phonétique. Il condamne tout ce qui, dans l'écriture, ne répond pas à cette exigence. Les lettres qui ne se prononcent pas, les lettres qui peuvent avoir des prononciations différentes, les prononciations aux graphies multiples. Il reconstruit le français sur le principe « un son, une graphie ».
Mais cette nouvelle façon d'écrire, comme elle est alors désignée, ne rencontrera pas le succès espéré, en dépit du soutien de quelques grandes figures, dont Ronsard, qui finit par revenir à l'orthographe ancienne. En attendant, des clans se forment, des écrivains prennent position, qui en faveur de la nouvelle orthographe, qui contre, qui s'en remettant à l'imprimeur. La linguiste et historienne de la langue, Nina Katash, revient sur ces débats avec la figure d'un outsider, Rabelais. C'était sur FR3 en 1995.
L'orthographe au XVIe siècle était au centre de tous les débats. Écrire le français, c'était choisir le français contre le latin. Les uns voulaient une orthographe latinisante pour que ce soit une langue du bon Dieu, une langue noble. Les autres voulaient l'écriture simple pour que le peuple puisse comprendre. Et c'était un enjeu absolument extraordinaire. Et c'est toujours un enjeu. Si Rabelais écrit comme il écrit, c'est parce qu'il a choisi la littérature de colportage, la littérature de l'épopée, bien sûr burlesque. Mais il a choisi son orthographe, il a voulu la façonner et il l'a façonnée. Par exemple, omelette, il va l'écrire H-O-M-E-L-A-I-C-T-E.
Et puis vient l'Académie. Créée en 1634, elle a notamment pour mission de composer un dictionnaire, donc de fixer l'orthographe. Il faut 60 ans à l'institution pour en publier la première édition en exprimant ainsi sa préférence. Il faut suivre l'ancienne orthographe parce qu'elle distingue les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Oui, les simples femmes. Divers projets de réforme se sont succédés au fil du temps. Mais ni la Révolution, durant laquelle deux grammaires proposent successivement soit une réforme hardie, soit une orthographe nouvelle, ni les siècles suivants où les projets fleurissent avant de faner dans les tiroirs ou de succomber sous les moqueries de la presse, tout cela ne fait pas avancer la cause de la simplification. D'autant qu'au cours de la décennie 1830-1840, l'orthographe fixée par l'Académie devient une norme et un critère essentiel pour l'accès à la fonction publique. La généralisation de l'instruction pour tous la fige et elle devient un marqueur social. Celui ou celle qui la maltraite, quelle que puisse être par ailleurs sa culture ou son rang, est dévalué. Un exemple, avec cette phrase extraite de l'œuvre de Zola. Vous savez qu'elle en était venue à oublier jusqu'à son orthographe. Une déchéance, un écrasement, une demoiselle ravalée à une bassesse de servante. Les instituteurs, hussards de la République, jouent un rôle déterminant dans cette rectitude orthographique, faisant entrer les règles et leurs exceptions à grands coups de taloche et de dictées quotidiennes. Au point que même, le ministre de l'Éducation s'en émeut dans un discours prononcé en 1880. Et ce ministre n'est autre que le plus célèbre d'entre eux, Jules Ferry.
À la dictée, à l'abus de la dictée, il faut substituer un enseignement plus libre, plus vivant et plus substantiel. Épargnons ce temps précieux qu'on dépense trop souvent dans les vétilles de l'orthographe, dans les règles de la dictée, qui font de cet exercice une manière de tour de force et une espèce de casse-tête chinois.
Un peu plus tard, dans une conférence donnée en 1935, c'est Paul Valéry qui dénonce, je le cite, « l'absurdité de notre orthographe qui est en vérité l'une des fabrications les plus cocasses du monde. Elle est le recueil impérieux d'une quantité d'erreurs étymologiques artificiellement fixées par des décisions inexplicables, s'il le dit. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui avec cette orthographe gonflée de consonnes inutiles, bourrée d'exceptions, d'incongruités, incohérentes aussi. Tiens, pourquoi ? Un T final à bruit et à crédit. Parce que leurs formes verbales sont bruitées et créditées. Bien. Mais alors pourquoi pas de T à abri, alors qu'on a le verbe abriter ? Les exemples de ce type sont légion. Eh bien, voici un autre, cette fois avec l'accent québécois, extrait de la sitcom Les Beaux Malaises. Une petite fille fait ses devoirs et son père cherche à l'aider sous le regard interloqué de la mère.
C'est compliqué le français.
Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot?
Foi, ça prend-tu un E?
Ça dépend, c'est-tu la foi ou le foi?
La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend E.
Non, si c'est la foi, ça prend pas de E.
Mais c'est quand que ça prend E d'abord?
Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça. Non, mais toi, c'est la foi avec un S.
Non, le S, c'est au pluriel.
Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça.
Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs.
Oui, mais non, on dit La Voix X.
Mais pourquoi c'est pas un E d'abord?
Parce que La Voix E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué?
Oui, c'est compliqué.
Donc, on l'aura compris, c'est compliqué. Donc, comment simplifier? Telle est la question. Le problème, c'est que l'orthographe n'est pas seulement une invention diabolique. Elle est aussi un code visuel qui fait qu'un retour à la simple graphie du XIIe siècle, proche de la phonétique, est impossible. En voyant « temps », du temps qu'il fait, orthographié « temps », T-A-N ou T-E-N, qui aujourd'hui comprendrait, hein, et sans culotte, avec « sans » écrit « S-A-N », faudrait-il comprendre qu'il s'agit d'une centaine de culottes ou au contraire d'une absence de culottes ? Car l'orthographe, avec ces lettres que l'on ne prononce pas, permet de lever les ambiguïtés de l'oral. Ces vers étaient sombres. Vous évoquent-ils des vers du poète ou ceux de ses lunettes ? Sans une graphie différenciée, impossible d'être sûr d'être certain. Alors que faire ? Et surtout comment ?
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le I, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule. C'était si bien. Tout ça m'affecte. Ça, c'est correct. Au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. Pas de cœur, y a pas d'erreur. Là, y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins. N'en prends pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, réformer l'orthographe, mission impossible.
Consonne ou voyelle ?
Voyelle.
A, consonne. S, consonne. F, consonne. D.
Oulala.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Très zen.
Modifier l'orthographe. C'est Michel Rocard, devenu Premier ministre en 88, qui s'y colle. Il fait bien les choses, Monsieur Rocard. Surtout ne rien imposer, mais pratiquer la concertation. Travailler avec un large panel de linguistes et main dans la main avec l'académie. D'autant que le terrain semble favorable. En 88, une enquête menée par le Syndicat national des instituteurs et professeurs de collège est formelle. 90% d'entre eux souhaitent une réforme de l'orthographe. Le 7 février 89, 10 linguistes, éminents bien sûr, professeurs d'université, chercheurs au CNRS, dont Nina Katash, Bernard Cerchellini ou Claude Agege, publient dans Le Monde une tribune appelant à moderniser l'écriture du français. Extrait.
Une langue est vivante, sa graphie également. Presque tous les pays européens, et la France parmi eux, ont à plusieurs reprises modifié leur façon d'écrire. Ce fut le cas pour l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Brésil, l'Espagne et les pays d'Amérique du Sud, les pays de l'Est, etc. Depuis plus d'un siècle, contrairement à une tradition dans l'histoire de notre langue, aucune initiative tendant à adapter l'orthographe n'a pu être menée à bien. Un arrêté de tolérance avait été promulgué par le ministre de l'Éducation nationale en 1901. Un autre a été repris en 1977. Bien qu'ils soient toujours en vigueur, ils n'ont pas été appliqués. L'Académie française elle-même avait admis certaines simplifications en 1976. Ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet.
Mais cette fois, c'est différent. Certes, explique la brochette de linguistes, il faudra expliquer et informer, choisir avec prudence les points où porteront les aménagements. Un comité des sages pourrait être chargé de les recommander. Un comité des sages, excellente idée. Fin mai 89, Michel Rocard crée un Conseil supérieur de la langue française, CSLF, composé de Français, de Québécois, de Belges, de Suisses et de Marocains, linguistes, journalistes ou éditeurs. Dans le discours qu'il tient en octobre 89, lors de la première réunion de ce Conseil, le Premier ministre émet le souhait de rectifications utiles en matière d'orthographe, à l'exclusion, précise-t-il, d'une véritable réforme qui modifierait les principes mêmes de la graphie de notre langue et qui altérerait son visage familier. Donc, modifier sans altérer. La belle affaire. Comment procéder ? François Clauzet évoque une piste dans son livre « Zéro faute » paru aux éditions Mille et une nuits en 2009.
Au cas par cas, les experts doivent distinguer les corrections souhaitables et les abstentions préférables. Selon quels critères ? Le rapport coût-bénéfice, bien connu des économistes. Le coût s'apprécie à la lecture et le bénéfice à l'écriture. Qu'il fasse ou non des fautes, le lecteur reconnaît la graphie qui lui est familière et bute sur celle qui lui est inhabituelle. Il existe un seuil de tolérance au-delà duquel le lecteur refuse le changement. Ce seuil est assez bas. C'est pourquoi il ne peut pas être question de faire toutes les modifications d'un coup. L'orthographe est allergique à la révolution. En fait, la simplification facilite surtout l'apprentissage de l'écriture. Les véritables bénéficiaires sont donc les enfants et les étrangers, qui n'ont pas droit à la parole.
Au sein du Conseil, un groupe de travail s'attelle à la tâche autour de Nina Katash et Bernard Cerchellini, rejoint par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice Druon. Ce Conseil accueille des linguistes, des lexicographes, un inspecteur général de l'éducation nationale, ainsi que le chef correcteur du Monde. 6 mois plus tard, leur rapport est prêt. Il est soumis à l'Académie française. On ne saurait toucher à la langue sans l'assentiment du Quai Conti, bien sûr. Les 22 immortels présents lors de l'examen de ce dossier approuvent à l'unanimité. Et enfin, le 6 décembre 90, le rapport du Conseil supérieur de la langue française sur les rectifications est publié au Journal officiel. Ces rectifications sont conformes aux souhaits exprimés par Michel Rocard et se déclinent en 6 points que voici. 1. Le trait d'union n'est plus obligatoire. On peut donc écrire porte-monnaie ou portefeuille d'un seul tenant. Ouf et merci. 2. Le pluriel des mots composés peut s'écrire avec un S au deuxième mot. Des coupes ongles avec un S à ongles, mais pas à coupe. 3. Les accents circonflexes ne sont plus obligatoires sur les I et sur les U, sauf lorsque l'accent est nécessaire pour éviter des confusions. Vous aurez votre dû, c'est sûr, quand le blé sera mûr. Ici, dû, sûr et mûr, gardent leur chapeau. 4. Le participe passé est invariable dans le cas de laisser suivi d'un infinitif. Exemple, elle s'est laissée faire sans eux à laisser. En voilà une belle chose, trappe, pour tous ceux qui essaient de respecter l'accord des participes passés, avec un seul P à trappe en plus. un seul peu, allez savoir pourquoi. 5. L'accent grave est utilisé pour correspondre à la prononciation. Ainsi, le deuxième « e » de « événement » porte un accent grave. « Céleri » voit son accent aigu devenir grave. Est-ce grave, docteur ? Et un sixième point, puisqu'il y en a 6, qui semblait marginal, mais qui concentrera les critiques, certaines anomalies comme « oignon » ou « nénuphar » sont modifiées. « Oignon » perçons « i » avant le « g ». Le pH de nénuphar devient F, conformément à l'étymologie, car ce mot vient du persan, pas du grec, comme chacun le sait, bien sûr. Le tout en précisant bien à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de réformer l'orthographe. Ces modifications n'ont aucun caractère obligatoire, non. Leur application est laissée à la libre appréciation des uns et des autres, à l'école, comme dans les maisons d'édition ou les journaux. Autrement dit, une loi sans obligation, on ne saurait être plus prudent. Et pourtant, un vent de fronde se lève, qui naît dans le Figaro sous la plume de François Bayrou.
Je reproche à cette réforme d'être à la fois arbitraire et péremptoire. Songez que 4000 mots vont changer sans qu'il y ait eu de véritable débat sur le sujet. Justifier une telle réforme par sa rationalité est une absurdité. Il n'existe pas de notation rationnelle. On ne peut que remplacer un arbitraire par un autre.
4000 mots, certes, mais sur 30 000 utilisés de façon usuelle, ça ne fait que 13% d'entre eux qui subissent des changements. Et rapporté au nombre d'entrées du petit Robert, on tombe à moins de 7%, pas de quoi en faire un fromage. Eh bien, ce qui n'empêche pas nombre d'écrivains de condamner sans crainte d'en rajouter. En gros, ils disent c'est un attentat contre l'accent circonflexe, une odieuse amputation de l'oignon, une défiguration du nénuphar. Même Cavana, fondateur de Harakiri et de Charlie Hebdo, à qui l'adjectif de conservateur ne convient pourtant pas, monte sur ses grands chevaux. Voici un extrait de son ouvrage « Mignonne, allons voir si la rose » paru en 1989.
À 12 ans, de mon temps, chaque Français savait écrire correctement sa langue, même s'il butait sur quelques malicieuses vacheries. En tout cas, personne ne trouvait l'orthographe injuste, tyrannique, élitiste, méprisante pour le bon peuple aux mains calleuses. On s'y montrait excellent, moyen ou médiocre. Le dictionnaire était là, et même si l'on coupait un M à commode, ou si l'on collait un R de trop à intéressant, on n'en faisait pas une maladie. On avait bien d'autres sujets de préoccupation.
On pourrait à l'envi, tiens, sans eux à l'envi, mais oui. On pourrait citer les perles des uns et des autres, écrivains, éditorialistes, dont beaucoup confondent une fois encore la langue et l'orthographe, et qui exagèrent outrageusement l'ampleur des modifications. Alain Finkielkraut, notamment, qui dit « C'est vraiment changer la langue comme s'il ne devait rien subsister du passé dans le présent. C'est encore une fois une émeute des vivants contre les morts. » Ou Philippe Solers, « La réforme de l'orthographe fait partie d'un programme de destruction. Rien de moins. » Nombreux également sont ceux qui condamnent l'intervention de l'État sur le sujet, criant presque à la soviétisation et estimant que c'est l'usage, et lui seul, qui peut et qui doit dicter les changements. Sur ces deux arguments, le linguiste Bernard Cerchellini remet les pendules à l'heure. Nous sommes au Club de la presse de France Culture en janvier 1991.
La langue change, mais je rappelle, l'orthographe, elle, est toujours édictée. Elle est due aux scribes du Moyen-Âge, aux imprimeurs du XVIe siècle et à l'Académie depuis. Donc ce n'est pas la langue, c'est un code de transcription de la langue, vénérable, mais il a toujours été édicté, il n'évolue pas par lui-même. L'homme du peuple qui change un mot, une orthographe, il fait une faute, il innove pas. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'autorité gouvernementale, puisque ce que la puissance publique a fait dernièrement, c'est ce qu'elle a fait au cours du siècle, elle saisit l'Académie pour avoir un avis. Si l'Académie donne son avis positif, eh bien, par son dictionnaire et par les autres dictionnaires, ces rectifications sont diffusées. Pourquoi facultatives ? C'est parce que, en quelque sorte, il s'agit de proposer une norme nouvelle. Mais naturellement, il ne s'agit pas de dessaisir ceux qui ont maîtrisé l'ancienne norme. Cela s'adresse plutôt aux générations qui vont venir. Des rectifications se diffusent en 30 ans, une génération.
Il faut qu'une guerre commence, une vraie, celle du Golfe, contre l'Irak, pour que la bataille de l'orthographe quitte l'actualité. Et les rectifications restent lettre morte. Mais voilà que 25 ans plus tard, la querelle est rallumée. Le bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 novembre 2015 indique que la réforme de l'orthographe, approuvée en 1990, sera appliquée dans les manuels scolaires à partir de la rentrée 2016. Qu'on se le dise. Et le scandale de revenir, et les indignations de refleurir, y compris chez les politiques. Bruno Le Maire, par exemple. L'orthographe est le visage des mots, dit-il. Renoncer à l'orthographe, c'est défigurer notre langue. Ou encore Florian Philippot, alors élu du Front National, qui n'a pas de mots assez forts pour dénoncer, je le cite lui aussi, l'infâme et bête réforme devant laquelle quelques démagogues se pâment alors que le français est notre âme. Pourquoi le sujet est-il si inflammable? Pourquoi suscite-t-il autant de réactions outrées? La réponse est donnée en partie par les linguistes Maria Candéa et Laïnia Véron dans un article de la revue AOC de juin 2019 titré « Qui a peur de la langue française ?» Extrait.
Notre attachement concerne en réalité moins la langue qu'une vision mythifiée et très affective de la langue. Prenons l'exemple de l'orthographe. Même lorsque nous réalisons que notre goût pour une forme graphique arbitraire est moins dû à un véritable jugement esthétique qu'à une question d'habitude, nous n'arrivons pas à y renoncer. Face aux démystifications linguistiques, certaines personnes pourront même revendiquer la complexité du français en répétant un cliché. La beauté de la langue française viendrait précisément du fait qu'elle est difficile. Mais pourquoi? Pourquoi la difficulté serait-elle belle et souhaitable en soi? L'explication est sociolinguistique. La maîtrise de la langue française, réelle ou supposée, constitue un capital culturel. Nous avons l'impression que notre capital langue, déjà fragilisé par les débats sur la hiérarchie des valeurs dans une société ultralibérale, va être dévalué par toute remise en question du français que nous avons appris et croyons maîtriser.
Et aujourd'hui, eh bien, si les rectifications sont présentes dans les manuels scolaires, elles n'ont pas été adoptées par la société. Le conservatisme domine. Une recherche sur le mot « oignon » dans Le Monde, Libération, L'Humanité et La Croix le montre invariablement écrit avec un « i » avant le « o », ou après le « o », pardon. Enfin, comme avant. L'orthographe modifiée demeure un acte militant, ou à tout le moins une originalité qu'il faut expliquer. Dans Le Français va très bien, merci, paru en 2023, le collectif des linguistes atterrés précise que leur livre respecte les rectifications orthographiques de 1990. Les signataires vont même plus loin en appliquant deux rectifications qui font aujourd'hui l'objet de discussions. D'une part, l'accord de proximité, qui consiste à accorder un adjectif ou un participe passé avec le mot le plus proche, quel que soit son genre. Exemple, les garçons et les filles sont intelligentes. Autrement dit, revenir à une règle d'accord qui existait jusqu'à la Renaissance. Autrement dit encore, en finir avec le principe qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Les linguistes atterrés adoptent aussi l'invariabilité du participe passé des verbes conjugués avec « avoir ». Autre grand débat, autre sujet de passe d'armes. Des dizaines de spécialistes de la langue, écrivains ou universitaires, dont Annie Ernaux, Claude Agege ou Cynthia Fleury, plaident en sa faveur dans Le Monde en octobre 2023.
L'idée n'est pas de tout simplifier ni d'écrire en phonétique, mais d'améliorer le système graphique pour mieux l'enseigner. Aujourd'hui, on sait ce qu'on peut modifier sans dommage pour le sens ou la prononciation et sans ralentir la lecture. Le premier pas serait d'acter la réforme de l'accord du participe passé et d'accepter de le laisser invariable lorsqu'il est conjugué avec « avoir », comme le prévoyait déjà l'arrêté du ministre de l'Instruction publique Georges Legge en 1900, comme le demandent aujourd'hui la Fédération internationale des professeurs de français et le Conseil international de la langue française. Le coût social et économique de notre orthographe archaïque est devenu exorbitant. C'est aujourd'hui un outil de sélection inadapté, car on lui prête des vertus qu'elle n'a pas.
Il est une vertu que la langue peut et commence à avoir, c'est l'égalité entre le masculin et le féminin. Mais c'est aussi la cause d'une nouvelle guerre, celle de l'écriture inclusive. Comme avec la mal nommée réforme de l'orthographe, les esprits s'échauffent aussi rapidement et le politique, à qui d'aucuns reprochaient en 90 de vouloir régenter la langue, s'en mêle. Édouard Philippe, Premier ministre, signe en 2017 une circulaire qui proscrit l'écriture inclusive dans les textes destinés à être publiés au journal officiel. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ferme les portes des établissements scolaires en 2021 à l'écriture inclusive. Deux ans plus tard, le Sénat adopte un texte de loi qui, si l'Assemblée le confirme, la bannira des textes officiels, des contrats de travail, des actes juridiques, etc. Sans oublier l'Académie, évidemment, qui voit dans cette graphie un péril mortel pour la langue. Je cite, bien sûr, avec un circonflexe sur le « U ». L'immortel Jean-Marie Rouard, lui, s'en expliquait au journal de France Inter en octobre 2017.
L'écriture inclusive, c'est le dernier facteur d'appauvrissement et de dénaturation de la langue. Ça complexifie, si vous voulez, la langue française. Je vois pas l'avantage. Je trouve qu'il y a des combats à mener pour les femmes. Mais en revanche, la malheureuse langue française, dans un piteux état, il ne faut pas l'accabler et essayer de chercher partout dans la langue française l'imprégnation du pouvoir des hommes. Déjà, il y a des différences de communautés culturelles. On est en train de se séparer. Ce trait d'union fondamental, ce qui permet de se comprendre, c'est la langue. Notre langue, c'était notre ciment, c'était notre condition d'existence en tant que Français.
Tous ceux qui, en leur temps, affirmaient que la langue évolue par l'usage et que l'État n'a pas à s'en mêler devraient se réjouir, car ici, l'usage progresse. Les jeunes générations sont d'ores et déjà familiarisées avec l'écriture inclusive. Plusieurs publications, féministes notamment, appliquent ces principes, adoptant le point médian qui permet d'associer féminin au masculin dans un même mot, en employant l'accord de proximité ou féminisant les noms de métiers. À France Inter, nous parlons ainsi des auteurices. L'historienne et critique littéraire Eliane Viennot explique en quoi ce mode d'écriture n'est pas une coquetterie.
L'idée de base, si vous voulez, c'est d'arrêter de parler au masculin, hein, d'utiliser ce que nous faisons massivement, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, arrêter de parler des hommes seulement lorsque nous voulons parler des hommes et des femmes. C'est important parce que sinon on ne pense qu'aux hommes. Il y a des études qui ont montré ça très bien et ça se voit très très souvent que lorsqu'on utilise des énoncés uniquement au masculin, en fait, ce qui est mobilisé dans nos esprits, dans nos imaginaires, on se représente les hommes. Du coup, on ne parle pas des femmes et du coup, on n'interviewe pas des femmes et du coup, on se pose pas la question si on parle des agriculteurs et des agricultrices. Bien, il se trouve que quand on dit les agriculteurs ne sont pas contents de telle chose, ils sont dans la rue en ce moment, on a l'impression que c'est une profession masculine. Or, il y a 25% d'agricultrices, de chefs d'entreprise, sans parler de toutes les agricultrices qui pratiquent ce métier. Et il faudrait s'intéresser aussi à elles. Est-ce que leurs soucis sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents de ceux des hommes?
Si l'on considère que la langue est vivante, qu'elle accueille en permanence des mots nouveaux, ils sont d'ailleurs 150 dans l'édition 2025 du Petit Robert, il n'y a pas de raison que son écriture, elle, soit figée pour l'éternité, momifiée. Sauf, bien sûr, à vouloir en faire un objet d'idolâtrie, avec un circonflexe sur le A.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, comment simplifier l'orthographe? Lourde question, large question, les deux en même temps, à laquelle nous allons essayer de répondre avec vous, Bernard Cerchellini, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre nom s'écrit C-E-R-Q-U-I-G-L-I-N-I. Il est temps de dire aux Français que le GLE n'existe pas. Hein, c'est le pont du Garigliano.
On ne le prononce pas.
Bon. Vous êtes linguiste, vous avez été délégué général à la langue française auprès du Premier ministre Michel Rocard, chargé à ce titre d'animer le groupe d'experts qui a proposé en 90 ces fameuses rectifications. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages, dont « Le ministre est enceinte », ça j'aime bien, sur la féminisation des mots, « L'accent du souvenir », ça c'est une enquête policière quasiment, hein, sur l'accent circonflexe, et tout récemment chez Folio, « À qui la faute ?», sous-titré « L'impossible mais nécessaire réforme du français ». Alors, pourquoi nécessaire et pourquoi impossible?
Nécessaire, vous l'avez dit dans ce récit, l'orthographe du français est incohérente, bizarre, absurde parfois. Tout le monde tombe d'accord, il faut la réformer.
D'accord.
Mais la langue française a inventé cette orthographe que l'on doit et qu'on ne peut pas réformer. Nous l'avons bien montré en 1990, ayant pris toutes les précautions pour mettre en jeu les autorités, les responsabilités, les prestiges, Maurice Druon, Bernard Pivot. Et puis, nous avions oublié l'usager.
Eh oui.
Qui n'en a pas voulu.
C'est le principal.
Et c'est le principal.
Parce qu'en termes de nombre, il écrase tous les autres. Et évidemment. Vous attendiez à cette tempête médiatique que ces propositions ont déclenché ou pas? Ça vous a surpris?
Alors, pas du tout. J'ai passé la nuit au journal officiel à corriger le texte avec les correcteurs. Il convenait de ne pas laisser de faute d'orthographe dans un texte de réforme. Le matin, j'ai réuni mes collaborateurs et je leur ai dit « Eh bien, l'affaire est terminée, passons à autre chose. » Et quelques heures après, le Figaro lançait une attaque qui a duré un mois. Stupéfaction, puisque nous avions pris toutes les précautions et la réforme était consensuelle. Mais révélation de l'importance de l'orthographe, c'est-à-dire de la langue en France. La langue en France fonde l'identité nationale. Le citoyen qui a acquis à l'école cette orthographe difficile considère que c'est un patrimoine national auquel on ne touche pas.
Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays ? Est-ce que les autres langues, on va parler des langues européennes par exemple, sont aussi pourvues de chausse-trappe que la langue française ou est-ce qu'elle est plus dure qu'une autre ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, l'orthographe française est compliquée par nature, car la langue est compliquée par nature. Vous l'avez dit, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiguïté dans le français. Si je dis « la femme qu'il aime », ouais. Si je dis avec le plus vif des plaisirs, c'est ambigu à l'oral. À l'écrit, il faut désambiguiser. Donc, l'orthographe sera toujours un peu compliquée, elle apportera toujours des informations que donne pas l'oral. Mais par ailleurs, aussi, la France est fondée sur sa langue. Michelet l'a dit, le patrimoine national fonde. D'accord. Et donc, on n'y touche pas, ou peu.
Oui, mais n'avez pas répondu à ma question. Mmh. Est-ce que les autres langues sont aussi difficiles que le français ? Est-ce que c'est un lieu commun de dire ben, le français est une langue difficile ?
Alors, le français requiert à l'écrit des informations qui sont données à l'oral par les autres langues. Prenons l'italien, par exemple. Ouais. L'italien a une orthographe quasiment phonétique, car on entend tout. Si vous dites en français « elle chantait », c'est à la fois du singulier et du pluriel.
Bien sûr.
Pas en italien. Il faut donc une orthographe qui rajoute un S et un N-E-N-T qu'on n'entend pas.
Voilà, ça, comme ça c'est clair. Alors comment les Belges, les Suisses ou les Québécois ont-ils accueilli ces rectifications de 1990 ?
Avec grande faveur. Les Québécois voulaient même que nous allions plus loin, mais il y avait des conservateurs, il y avait une Académie française qui acceptait de réformer, mais qui n'acceptait pas d'aller beaucoup plus loin. Et cela a été négocié. C'est une réforme initiée par un Premier ministre, Michel Rocard, qui était habitué à la négociation. Et donc, nous pensions avoir trouvé un commun dénominateur acquis par tout le monde et accepté. Et puis, 35 ans après, on constate que, à part l'accent grave sur événements, à part quelques petites réformes, globalement, ce n'a pas été diffusé. J'annonçais 30 ans, nous sommes à 36 ans.
Alors, il y a l'orthographe et la grammaire. Alors, on dit parfois, l'orthographe, c'est la science des ânes, parce que c'est un truc à apprendre par cœur, alors que la grammaire, c'est subtil, ça demande une analyse, une réflexion. Comment expliquez-vous qu'on entend encore constamment des fautes d'accord de participe passé, y compris dans la bouche de gens qui s'expriment sur la place publique et qui sont censés devoir bien s'exprimer ?
D'abord, notez qu'il y a dans l'orthographe française, au rebours des autres orthographes, une part de grammaire. Puisque si je veux écrire « elle chantait », je dois savoir que c'est de l'imparfait du pluriel. Donc, l'orthographe n'est pas que la science des ânes. L'orthographe, c'est un métier de grammairien en français. Les poissons, un S, pourquoi ? Parce que c'est du pluriel. On ne l'entend pas. Par ailleurs, il y a dans la langue des structures historiques, les lettres que j'ai écrites, cela vient du bas latin, qui évolue par elle-même, c'est-à-dire que les lettres que j'ai écrites, c'est un accord du participe passé avec « avoir » et le complément « anticipé » qui vient de l'ancien français, qui a duré pendant des siècles et qui est peut-être en train de s'éteindre en ce moment. Oralement, on dit les lettres que j'ai écrites.
Oui, ça fait saigner les oreilles quand même.
Oui, alors voilà, beaucoup de mes confrères disent « passons directement » à l'invariabilité. Moi, je reste prudent puisque il y a des francophones qui disent encore les lettres que j'ai écrites. C'est un phénomène de langue. Donc, il faut en prendre la dimension, noter que, je dirais, on peut dire les deux et qu'il faut, par exemple, pour la Cour des passés, assouplir quelque peu la norme.
Alors,
vous voyez vous-même, ouais, vous êtes réticent.
Je suis complètement réticent.
Nous sommes tous réticents au mouvement de la langue.
Alors, l'orthographe, dites-vous, souffre de quatre mots. Alors, M-A-U-X, Incohérence, étymologisme, trahison de l'oral, pédagogie infructueuse. De ces quatre mots, duquel peut-on guérir le plus facilement ?
Le premier, et c'est ce que nous avons fait en 90, c'était des incohérences. Là, les incohérences, les absurdités, les choses inutiles, l'X de bijoux cailloux ne sert à rien. L'étymologie, n'oubliez pas que l'orthographe est un patrimoine historique, et qu'il y a dans le mot l'orthographe des traces. On peut ne pas être d'accord, mais vous-même, tout à l'heure, vous avez cité doigt, écrit D-O-I en ancien français, et puis dès la fin du Moyen-Âge, D-O-I-G-T à cause de digitum. Il y a là un prestige, une histoire de la langue, ou le circonflexe.
C'est qui digitum ?
C'est digitum, c'est le doigt en latin, et donc on a écrit D-O-G-T à cause de digitum. La trahison de l'oral. Ben oui, bien sûr, on trahit l'oral, parce que l'oral est ambigu et il faut rajouter des informations. Si je transcris « elle chantait » de façon phonétique, j'obtiens une transcription ambiguë.
Ouais.
Et à l'écrit, il faut être clair. Et puis la pédagogie, bien la pédagogie, là aussi, pendant longtemps, les réformateurs, c'est ma tribu, ont été un peu simplistes. Ils ont été phonétistes, c'est-à-dire... on transcrit directement l'oral. Et non, il faut aussi le dire que la grammaire est importante et qu'il faut continuer à expliquer aux enfants ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un pluriel, ainsi de suite. C'est-à-dire, pour écrire le français et l'orthographe française, il faut être grammairien. On n'en sort pas.
Bon, et l'Académie française est-elle si conservatrice qu'on le dit ?
Historiquement, non, puisque vous l'avez dit...
Historiquement, je suis bien d'accord, mais aujourd'hui...
Elle diffuse... dans son dictionnaire, dont la dernière édition a été publiée l'an dernier, les propositions de rectification. Simplement, l'usage ne suit pas.
Ouais.
L'Académie, au fond, si l'on prend la première édition du dictionnaire de l'Académie française, 1694, on constate qu'elle a changé l'orthographe d'un mot sur deux. Au fond, le seul réformateur ayant connu le succès en France est l'Académie française. Simplement, elle n'est pas suivie, peut-être même par les usagers, peut-être que c'est trop tard maintenant. Et, vous savez, on n'a jamais autant écrit le français depuis le numérique. Nous avons tous une image visuelle.
Ouais.
Alors essayez d'écrire doigt D-O-I.
Bon, vous aurez à l'usure et je vous aurai à l'usage. C'est la différence.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Bernard Cerculini, les chiffres et les lettres, c'est bien, mais écrire des chiffres en lettres, ça c'est l'enfer. En plus avec cette règle de 100 et 20, alors franchement, il y a une absurdité, il y a un besoin, là je pense, de simplifier, non ?
C'est ce que j'appellerais une règle zombie. On ne sait pas qui l'a édictée.
Il n'y a même pas de coupable.
Il n'y a pas de coupable. L'usage ne suit pas, mais néanmoins, dans les dictées, dans les textes à corriger, elle doit être respectée. 200 S, 201, 2, 3, 4, pas d'S. Je crois qu'il faudrait d'urgence régler la chose. 200 prend un S. Et je voudrais que l'Académie française le dise tout simplement. 100 et 20 au pluriel prennent un S. Point barre.
Si je me permets d'être familier, on a l'impression que cette règle est faite pour emmerder le monde. Rien d'autre.
Il y a certains aspects de l'orthographe française. Semble-t-il cette mission, vous voyez.
Voilà. Alors, vous avez consacré, je l'ai cité en vous présentant, un ouvrage sur l'accent circonflexe. Pourquoi tant d'amour pour ce chapeau apparu, je crois, en 1740 ?
Il est apparu plus tôt.
Ah, c'est pour ça que j'ai dit je crois.
Oui.
Par prudence.
En fait, j'ai été fasciné par l'accent circonflexe, d'une part parce que nous avions proposé en 1990 de le supprimer sur I et U sans succès, et d'autre part parce que c'est le type même du conventionnel de 93 devenu préfet d'Empire. Le circonflexe au XVIe siècle, c'est l'homme de la réforme.
Oui.
Les imprimeurs, qui sont des réformateurs, souvent protestants, disent le S devant T dans forêt ne se prononce plus depuis des siècles, on le remplace par un circonflexe qu'ils empruntent au grec où il a cette fonction. Et l'Académie, au siècle suivant, n'en veut pas. Elle refuse les accents, globalement, et elle publie un dictionnaire sans accent. C'est en 1740 que l'Académie va faire volte-face. L'abbé d'Olivet, qui était un bon phonéticien, sensible à la langue, il était jurassien, il prononçait des voyelles longues, fait rentrer le circonflexe dans le dictionnaire de l'Académie. Et du coup, il devient l'emblème des conservateurs. On ne touche pas au circonflexe, qui a toutes les vertus pour les conservateurs. Il est iconique. Hein, les circonflexes sur « il », c'est l'oiseau qui bat des ailes.
Pour la prononciation aussi, pâle.
Alors, il est utile pour la prononciation. Mmh. Il est mémoriel parce qu'il rappelle qu'un « s » de Vanté existait au XIIe siècle. Oui. Il a toutes les vertus de l'orthographe. On ne peut pas y toucher.
Les Allemands sont moins timides. Vous vous rendez compte qu'ils ont réformé leur Eszett. Le Eszett, c'est une espèce de grand B pour le remplacer par deux S.
Bien sûr, il y a une. Les germanophones, c'est-à-dire les Allemands, Autrichiens, Liechtenstein, la Suisse, ont réformé sans aucun problème. Mais les Italiens aussi, les Espagnols. Et en France, on ne peut pas vraiment faire une réforme qui est nécessaire. C'est stupéfiant, mais ça montre aussi, d'une certaine façon, l'amour de la langue, le respect de la langue. Oui. L'orthographe, c'est la forme scolaire de la langue.
Il y a aussi Alors, l'union fait la force, mais il y a aussi le trait. Est-ce que le trait d'union, donc, on peut le supprimer ici et là ?
Mais bien sûr, d'ailleurs, dans l'histoire de la langue, quand un mot composé apparaît, on l'écrive un trait d'union et on le soude. Mmh. Et dans la réforme de 90, nous proposions de souder. Car il y avait un aspect de cette réforme qui était, je crois, réussi. C'était non pas de se préoccuper du stock d'absurdités que l'on connaît bien, mais se préoccuper des mots à créer. Ouais. Quand il faut... L'anglais n'est pas la langue seule de la modernité. Il faut que le français puisse dire le monde moderne et qu'on invente des mots.
Alors justement...
pour les écrire.
Il y a eu une évolution avec le langage de banlieue. Une langue vivante, elle est vivante parce qu'elle évolue. Ce langage des banlieues, j'ai l'impression, des souvenirs que j'en ai, qu'il était plutôt bien accepté, y compris par l'Académie.
Oui, l'Académie a accepté des mots issus des jeunes. Le Petit Larousse, depuis longtemps, a fait rentrer meuf, keuf, etc. Bien sûr, la langue est vivante. Elle évolue. Nous pensons que l'orthographe doit, avec prudence, avec rigueur, évoluer aussi, d'autant plus que c'est un obstacle pour maîtriser la langue française. Pensons à ces millions de personnes qui apprennent le français et qui doivent apprendre les règles que vous avez citées, qui sont absurdes. Simplifions. Et pensons aussi à ceux qui créent des mots. Celui qui va inventer, ou celle qui va inventer demain, un pèse-molécule. Au singulier, il va mettre un S ou pas à molécule, comme dans
pèse-bébé. On en pèse rarement une.
Mais on peut en peser plusieurs à la fois. Bah donc, oui. Nous avons proposé en 90 une règle très simple. Singulier, pas d'S. D'accord. Un pèse-molécule, pas d'S. Voilà, ce sont des choses qu'il faut faire de façon consensuelle, si possible. Mais c'est difficile.
J'ai gardé le meilleur pour la fin, ce qui fait polémique aujourd'hui, la langue inclusive. Quel est votre regard sur cette réforme-là ?
J'ai publié, vous l'avez dit, un ouvrage en faveur de la féminisation des noms de métiers. Mmh. C'est clair. Mmh. Je pense qu'il y a dans la langue tous les moyens, grammaticaux, lexicaux, de faire apparaître le féminin et le masculin sur le même plan. De Gaulle, le premier, disait « française, français ». Donc on peut dire « les étudiantes, les étudiants ». En revanche, j'appartiens tout de même à un courant de pensée qui, depuis le XVIe siècle et Louis Maigret, veut simplifier l'orthographe. Or, je constate que l'écriture inclusive, qui multiplie les parenthèses et les points, la complique. On dit chez moi que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Donc, revenons à un emploi de la langue française, français, étudiante, étudiant.
Bien, merci infiniment Bernard Cerchellini, et à bientôt peut-être pour d'autres mots, M-O-T-S, pas M-A-U-X. Hein.
Tout va volontiers.
Bien, tout va bien ici, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, simplifier l'orthographe, mission impossible, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga.